Le journal Nazar Coco.
Bonjour à tous. Vive tension ce matin à Kayemba dans la province de Bandundu entre la population et la police. À la base, la mort hier d'un mécanicien arrêté et détenu à la prison de la cité. Ce mécanicien avait pris pour réparation la moto d'un policier, mais le travail de réparation n'ayant pas été fait, le policier propriétaire l'a fait arrêter par ses collègues qui l'ont transféré à la prison. La victime aurait succombé des suites des tortures subies. La population en colère a cassé le bureau de la police et la prison. La police a tiré en l'air et pour l'instant on compte 2 blessés dont un policier. La situation demeure confuse. Suivez ce témoignage de Genèse Ifot. Il habite Kayemba. Il est joint au téléphone par Radio Kapi.
Le problème a commencé avec un monsieur qui s'appelle Modogo, un mécanicien de moto. Il semble qu'il avait reçu la moto d'un certain policier. Ce policier est venu l'arrêter parce que la moto n'était pas réparée. Il semble qu'il y avait une perte de pièces. Alors, il était détenu à la prison de la police pendant quelques jours et on l'a transféré, ça fait 24 heures passées, à la prison centrale de Kayemba. C'est de là où il a trouvé la mort. Il a été torturé. Il est mort hier et c'est ce qui a révolté les gens. Et ce matin, on s'est réveillé avec le coup de balle, quoi. Ça a percuté un peu partout là et les jeunes gens ont compris qu'il fallait attendre qu'il termine avec les balles pour entrer dans l'enceinte de la police. Et ils ont saccagé tous les bureaux de la police. En tout cas, tout est mis en moule, quoi. Pendant ce temps, ils ont capturé un policier qu'ils ont tabassé et le policier a répliqué. Et c'est comme ça qu'un jeune homme a reçu des balles au bras droit. Nous sommes au niveau du territoire, du chef-lieu du territoire. Et la cité, c'est à 1,5 km. Et toute la cité, pratiquement, est ici. A envoyé la prison. Ils ont commencé à détruire la prison. Elle est ouverte. Il n'y a aucun prisonnier.
Évaluer la situation des 13 000 expulsés congolais de l'Angola, parmi lesquels 800 enfants, c'est l'objectif d'une délégation conjointe MONUC Caritas hier à Tchikapa dans le Kasaï occidental. Dans une réunion avec cette délégation, le maire de la ville de Tchikapa a indiqué que la situation des expulsés était chaotique et désespérée. Marie Chantal Lumba revient sur cette situation des expulsés.
De la rencontre mairie ONG Caritas et MONUC, il ressort que plus de 13 000 Congolais sont arrivés avec ces dernières vagues d'expulsion. Des expulsés dans une situation humanitaire inquiétante. Parmi eux, plus de 800 enfants qui, selon l'ONG Caritas, se trouvent dans des conditions sanitaires déplorables. D'après le maire de la ville de Tchikapa, les dernières nouvelles font état que la plupart de ces expulsés se dirigent vers sa ville. C'est ainsi qu'il affirme avoir contacté diverses structures pour venir en aide à ces personnes qui arrivent souvent démunies et malades. Pour sa part, l'ONG Caritas a relevé qu'un grand nombre des expulsés se dirigent vers des familles d'accueil, ce qui appauvrit davantage ces ménages. Certains expulsés déjà dans la ville de Tchikapa disent craindre de se regrouper. La raison qu'ils évoquent, c'est qu'il n'y a aucune structure prête à les prendre en charge. Par ailleurs, une délégation composée du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Réintégration régionale et du ministère des Affaires étrangères est attendue dans le territoire de Tchikapa pour cette même situation. De Tchikapa, Marie-Chantal Lumba, Radio Kapi.
À propos de ces expulsés, Caritas Développement Luebo annonce disposer de 8 tonnes de non-vivres pour ces personnes. Mais cette organisation caritative catholique s'est dit butée aux difficultés d'acheminement de cette assistance. Écoutez ici l'abbé Léon Kalambayi, joint au téléphone par André Kambala.
Il y a tout un lot de non-vivres qui sont déjà disponibles au niveau de Kananga. Le problème qu'il y a, c'est maintenant de les acheminer jusqu'à Tamako. Jusque jeudi, on attendait encore un autre petit lot qui devait venir de Lubumbashi. La difficulté était de pouvoir transporter ces biens de Kananga jusqu'à Tamako. Ça devait transiter par Tchikapa ou directement Kananga, Kamako, mais il n'y a pas d'appareil capable d'atterrir à Kamako. Alors il fallait peut-être le petit avion qu'on appelle ici Tchenankwanga, mais leur tarification est un peu chère par rapport aux possibilités qu'on a. Air Kasaï, tout comme Africa One, taxe par kilo 0,48. Le petit avion qui doit amener de Tchikapa à Tamako prend seulement 3 tonnes et il taxe 1 400 $. C'est là la difficulté. J'avais proposé qu'on amène de Kananga jusqu'à Tchikapa et de Tchikapa, on cherche des camions pour acheminer à Tamako.
Plus de 170 enfants et environ 80 mères sont morts lors de l'accouchement au premier trimestre de l'année en cours dans le sud Kivu. C'est ce qu'a révélé hier l'inspection provinciale de la santé au cours de la cérémonie commémorative de la journée mondiale de population. Selon l'inspection de la santé, ces taux de mortalité néonatale est le plus élevé de tout le pays. Parmi les raisons évoquées, la planification familiale non appliquée. Docteur Jean-Paul Makai, chef d'antenne à l'intérim de l'UNFPA au Sud Kivu, est au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
Il faudrait que les agents du système des Nations Unies en général, et particulièrement l'UNFPA, qui est l'agence des Nations Unies qui traite de ces questions de santé et de la reproduction, travaillent avec le gouvernement pour renforcer les capacités des structures. C'est-à-dire qu'il faudrait former le personnel, il faudrait apporter des médicaments, il faudrait réhabiliter aux besoins, il faudrait même apporter de l'équipement. Et en dehors de ces renforcements des capacités, il faudrait aussi arriver à améliorer l'accessibilité physique aux structures de santé, c'est-à-dire les routes qui amènent ou qui permettent la liaison entre les structures de santé et là où se trouve la population, ce serait également un défi à relever. C'est d'abord l'affaire du gouvernement et nous, nous venons en appui.
Au Kasaï-Oriental, 250 femmes sont décédées en 2006 au moment de l'accouchement. Ces sombres statistiques ont été annoncées hier par le Fonds des Nations Unies pour la population dans cette province. C'était à l'occasion donc de la journée mondiale de la population. La cause majeure de cette situation demeure, selon le chef d'antenne de cette agence onusienne dans la province, une pauvreté endémique de la population et aussi l'accès difficile aux soins de santé. Le responsable de cette antenne provinciale, Jeff Kayembe, est au micro de Christ Mukonde.
La santé de la reproduction est très mauvaise dans notre province. Pour vous donner un exemple concret, au courant de l'année 2006, on a enregistré 250 cas de décès maternels en milieu hospitalier. On n'a pas pu recenser ce qui s'est passé dans la communauté. Ça veut dire 20 cas de décès maternels par mois. Ça montre la difficulté d'accès aux soins par la population du Kasaï oriental, particulièrement les femmes enceintes, les femmes qui vont pour accoucher. Que les hommes prennent conscience que chaque grossesse pour une femme présente un certain nombre de risques et qu'il faut que les hommes appuient les femmes pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et après.
En province orientale, les services de lutte contre la tuberculose et la lèpre se disent satisfaits des résultats obtenus dans la lutte contre ces deux maladies pour le deuxième trimestre de l'année en cours. Le constat a été fait à l'issue de l'atelier de validation des données organisé du 10 au 11 juillet dernier par la coordination des luttes contre la lèpre et la tuberculose pour la partie ouest de la province orientale. Le médecin responsable de cette coordination, Docteur Jean Moussafiri, explique les causes du succès au micro de Aliana Alipanagama.
Au premier trimestre, nous avons détecté 413 nouveaux cas de tuberculose à microscopie positive, alors que pour ce deuxième trimestre, nous venons de notifier 453 nouveaux cas de tuberculose à microscopie positive. Quant à la guérison, au premier trimestre, nous avons réalisé un score de 72,9%, alors qu'au deuxième trimestre, nous venons de réaliser 74%. L'évolution positive s'explique par le suivi et l'encadrement du personnel sur le terrain. Moi et mon équipe, nous sommes souvent au niveau des zones de santé pour apprécier les niveaux d'exécution des directives, aussi bien pour la détection des cas de tuberculose que pour la mise sous traitement des malades ainsi détectés. Notons ici que l'objectif du programme est d'atteindre 80% du taux de guérison.
Ces résultats ont été compilés par les représentants des 13 zones de santé concernées dans la partie ouest de la province orientale. En Nord-Kivu, 4 personnes accusées de falsification des documents officiels attendent depuis ce jeudi matin à l'aéroport de Goma pour être transférées à Kinshasa. C'est sur décision du gouverneur de la province. Ces personnes étaient détenues depuis 15 jours au moins, successivement au gouvernorat puis à la police de Goma. Pour le gouverneur de province, Julien Paluku, leur dossier porte atteinte à la sûreté de l'État, alors que les organisations de défense des droits de l'homme déplorent le non-respect de la procédure judiciaire. De Goma, Gisèle Cage.
Les 4 présumés falsificateurs ont été arrêtés le 26 juin dernier à Goma. Tous les 4 travaillaient dans une maison commerciale organisant un secrétariat public appelé Computer Multisystem installé en plein centre-ville de Goma. Selon les services de sécurité, ces personnes falsifiaient des documents officiels de la République rwandaise et de la RDC, documents parmi lesquels des cartes d'électeurs et même des diplômes. Propos corroborés par le gouverneur du Nord Kivu qui parle d'un dossier de haute portée de sécurité qui est géré au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais les concernés que nous avons rencontrés à l'aéroport de Goma avant leur transfert à Kinshasa rejettent en bloc toutes ces accusations. Pour eux, ils ne faisaient que des photocopies des documents pour leurs clients. Entre-temps, certaines organisations de droits de l'homme déplorent que la procédure judiciaire n'ait pas été respectée. Pour elles, c'est le procureur de la République qui devrait gérer le dossier. C'est la deuxième fois en un mois que des personnes accusées de falsification des documents officiels sont arrêtées avant d'être transférées à Kinshasa. Le 6 juin dernier, 6 autres avaient été arrêtés et 5 transférés à Kinshasa pour le même motif. Gisèle Kachgoma, Radio Kapi.
La société civile de l'Ituri et le ministère des hydrocarbures viennent de tomber d'accord sur le lancement prochain du projet d'exploitation pétrolière sur le lac Albert par Touloy Oil. Cet accord a été trouvé au terme d'un long entretien entre les deux parties hier à Bounia. L'entreprise irlandaise avait signé il y a 2 ans un contrat d'exploitation pétrolière avec le gouvernement congolais. Un contrat dont la société civile de l'Ituri exigeait la révisitation des précisions avec Jean-Paul Basila.
La part de la population doit être clairement définie avant d'accepter la présence de cette société chez nous. C'est en ces termes que le délégué de la société civile a soutenu leur vœu de voir les contrats qui lient tout le oil au gouvernement congolais revisités comme d'autres contrats signés par les gouvernements pendant la transition. Après près de 4 heures de discussion avec le ministre Lambert Mende, la position change. Le délégué de la société civile accepte finalement d'accorder l'hospitalité à cet investisseur qui arrive le premier après les conflits armés. Jean Bosco Lalo, son président, explique.
Lorsqu'on crée le blocage à une entreprise qui vient de l'extérieur, certainement d'autres peut-être avec qui ils peuvent collaborer seront d'office frustrés. Cela peut conduire à l'effet que nous allons manquer des investisseurs.
Cependant, la préoccupation par rapport à la part de la population est demeurée. Lambert Mende explique comment la population peut trouver son compte dans ces contrats.
L'essentiel des fonds qui doivent servir à l'investissement, qu'il soit social ou autre, en Ituri, provient de la fiscalité pétrolière. Ces millions de dollars que l'État perçoit au titre des royalties, cet argent doit revenir à 40% en province orientale et à 40% des 40% vers le territoire où se déroule l'extraction pétrolière.
Les gouvernements de la province orientale acceptent de supporter une mission de la société civile de l'Ituri en Ouganda voisin pour voir comment tout le oil répond aux besoins sociaux dans les milieux où elle exploite du pétrole. Bounia, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
La cité d'Uvira au sud Kivu est dans le noir total depuis hier. Selon les responsables de la Société nationale d'électricité, dans ce territoire, le principal câble souterrain de plus de 9 km est vieux de 49 ans qui alimente la totalité de la cité. Une partie du Burundi est abîmée et la SNEL dit manquer d'appareils pour détecter la panne alors qu'aucune ligne de secours n'est opérationnelle. Les responsables de la Société nationale d'électricité annoncent des négociations avec le Burundi voisin pour l'obtention d'un appareil détecteur de panne, Didas Namujimbo.
Les habitants d'Uvira ont en effet passé la nuit dernière dans l'obscurité la plus totale, hormis quelques groupes électrogènes allumés dans les boîtes des nuits à la une. Selon la succursale de la Société nationale d'électricité, une panne assez importante est intervenue sur les principales câbles d'alimentation qui partent du Burundi jusqu'à Kalimabengue, le quartier le plus reculé d'Uvira. Pour les chefs des centres de la SNEL Uvira, Vincent Munganga, la vétusté de ce matériel y est pour beaucoup.
Nous avons notre câble qui quitte les postes de Bujumbura pour arriver ici à Uvira. Il y a une partie souterraine et une partie en aérien. Et c'est cette partie-là en souterrain, sur une longueur de 9 km, qui nous cause beaucoup de problèmes parce qu'il a tellement vieilli. Il date depuis 1958. Il y a trop de réparations qu'on a déjà faites là-dessus. Ça constitue des points très faibles. Nous savons seulement que c'est sur la partie souterraine. Mais la localisation exacte n'est pas encore connue. Nos amis Burundi dès que promis de mettre à notre disposition les camions là-bas pour la détection de la dite panne.
Mais en attendant la réparation, est-ce que la SNEL n'a pas un autre moyen d'alimenter certains coins stratégiques comme les hôpitaux?
Dans l'immédiat, non. Il n'y a pas moyen. C'est le seul point d'alimentation qui vient de Bujumbura jusqu'à notre niveau ici. Il n'y a pas une autre issue.
En attendant que ce pays voisin prête à la SNEL son matériel de détection des pannes, les habitants d'Uvira disent craindre une résurgence de l'insécurité dans plusieurs cas. Comme c'est le cas chaque fois qu'il y a coupure de courant électrique. Didas Namujimbo, Uvira, Radio Okapi.
12h40 à Kinshasa, fin de cette édition d'information.